Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kata oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Il est observé ces derniers temps un cycle de réaction de la communauté internationale face à la répression systématique des manifestations pacifiques en République démocratique du Congo. La dernière en date, c'est celle de l'OIF qui appelle cette même communauté internationale à se concerter pour une dernière fois pour trouver une nouvelle stratégie porteuse d'espoir pour le Congo. Entre-temps, la Belgique a demandé à ce que la situation en RDC soit à nouveau inscrite à l'agenda du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore le 09 97 06 49 69. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Willem Lungamba à la technique, Pierrot Elamegi à la réalisation et Nico Kalambay au standard de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji sous la supervision de Martin Sebujangwe. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le plaisir de partager ces 57 minutes interactives avec Colette Brackman, qui est avec nous en ligne. Bonjour Madame Colette.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, analyste politique, spécialiste des questions des Grands Lacs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme tout le monde, qu'on assiste là à un jeu de ping-pong entre le pouvoir de Kinshasa et la communauté internationale, installant ainsi un flou sur l'avenir de la RDC? Alors d'aucuns aimeraient savoir qui en est le responsable de ce flou qui est entretenu jusque-là.
Mais je pense que Kinshasa entretient volontairement l'ambiguïté. On assure que les élections auront lieu à la fin de cette année, mais à force de délais et de manœuvres dilatoires, ça suscite un certain scepticisme. Alors la communauté internationale est divisée. Je crois que certains pays veulent encore croire dans la bonne volonté, dans la sincérité de Kinshasa. Ils font le pari que ces élections représentent un moindre mal et qu'en tout cas qu'elles auront lieu. Et d'autres sont beaucoup plus sceptique au vu des expériences passées. Et donc la Belgique, pour sa part, durcit le ton et brandit une fois de plus sa menace de sanctions.
Alors les grands pays qui composent d'ailleurs la communauté internationale, il y a la Belgique, la France. Et on se rend compte que la Belgique a déjà donné le ton, mais la France n'a pas encore dit clairement sa position.
Mais la Belgique a moins d'intérêt économique que la France, mais elle a un énorme intérêt politique dans ce qui se passe au Congo, plus une pression de l'opinion publique. En Belgique, vous avez énormément de gens qui se soucient du Congo, plus une diaspora importante et qui est majoritairement hostile au régime actuel de Kinshasa. Et donc, les dirigeants belges sont sous une pression politique et morale. Alors qu'en France, la pression politique, elle est nulle, parce que les gens ne s'intéressent pas beaucoup au Congo. Par contre, les intérêts économiques sont importants et aussi le souci de la francophonie, du plus grand pays francophone existant.
Alors, quand l'OIF appelle à une concertation internationale pour la dernière fois, afin d'élever l'option, vous pensez qu'en quoi consistera réellement cette concertation internationale?
Mais l'OIF n'a jamais eu une position très dure sur le Congo, très avant-gardiste, si vous voulez. Les observateurs électoraux de l'OIF ont souvent été les plus conciliants, les plus bienveillants. L'OIF essaie toujours de trouver des solutions de compromis et de faire avancer les choses. Alors une concertation internationale, je ne sais pas, ce serait peut-être pour avaliser l'hypothèse des élections à la fin de cette année et déjà donner une sorte de de crédit, encore un crédit au régime en disant ces élections vont avoir lieu, tenons en compte et avançons à partir de là, ce qui est une solution minimaliste. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais l'OIE veut trouver une avancée positive, si vous voulez.
Alors finalement, l'opinion ne comprend pas la position exacte des États-Unis par rapport à la situation de l'heure en RDC. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi un flou entre la coopération de la RDC et les États-Unis aujourd'hui?
Mais les États-Unis sont assez balbutiants. Hein. On connaît les problèmes que pose la présidence Trump. Et ce qui est caractéristique, c'est que Mme Nikki Haley, qui n'est quand même que ambassadeur des États-Unis à l'ONU, même si c'est une personne influente, est arrivée à Kinshasa l'année dernière avec des positions très dures au départ, et puis elle a rencontré les dirigeants congolais, et puis finalement, elle a dit qu'elle prenait acte de la date des élections fin d'année, et que les États-Unis s'en satisfaisaient, ce qui est une position modérée, pragmatique, et tout le monde a vu ça comme une parole d'évangile en disant, voilà, on va l'accepter, alors que c'est la position d'une seule personne qui n'est même pas tout à fait le département d'État ou le président Trump, mais on a pris acte de cette position très très modérée des États-Unis qui rejoint d'ailleurs la position modérée de l'OIF.
Alors, après des manifestations pacifiques en RDC qui ont été repoussées par le pouvoir, c'est vrai, on a enregistré plusieurs réactions. Est-ce que vous estimez, comme les autres, qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ceux qui disent qu'il s'agit là d'une ingérence de la part de la communauté internationale dans un pays souverain?
Je crois que, en tout cas, je parle de pays comme la Belgique, l'opinion belge a été vraiment bouleversée, très très choquée par les images de la répression, de la marche des chrétiens, des gens qui marchaient avec des chapelets, des missiles, et on leur a tiré dessus. Pas dans tout le pays, pas partout ailleurs, ça c'est, les marches ont été accompagnées, mais ça a été choquant, et dans les pays démocratiques, l'opinion s'exprime, les dirigeants aussi ont des yeux pour voir et un cerveau pour réfléchir, ils ont été choqués, et ils ont exprimé leur désaveu des méthodes et de la dureté du pouvoir, et je vous dis, en Belgique, on est particulièrement sensible à ce qui se passe au Congo, et aussi proche de la population congolaise, parce que les canaux sont très nombreux. Les canaux, ce sont les associations, les relations personnelles de la diaspora, personnelles d'innombrables Belges qui ont gardé des amis au Congo et qui ne peuvent pas ne pas être bouleversés et ne pas réagir.
Alors, une dernière question avant d'ouvrir le standard et accueillir également les réactions des auditeurs qui nous appellent de partout. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, l'histoire se répète? Donc, je voulais parler de l'histoire des années 90 avec l'Église et le fait Mobutu. Aujourd'hui, l'Église et Joseph Kabila, le président Joseph Kabila.
Non, vraiment, moi je me pèse parce que j'ai vécu la fin de Mobutu, j'ai vu la conférence nationale, la présidence de Monsengo, et revoilà les mêmes acteurs qui se retrouvent avec des noms différents. Mobutu n'est plus là, mais le président Kabila se retrouve finalement avec le seul opposant réel face à lui qui compte, qui a de l'audience, qui peut parler sur le plan international, qui est Monsengo, qui a une certaine légitimité, qui est celle de l'Église, avec une masse populaire, les partis politiques sont un peu dévalorisés, mis à l'écart, et on se retrouve dans la même situation, et je trouve ça extrêmement triste et puis aussi dangereux, parce qu'il faut quand même se rappeler la manière dont le régime Mobutu finalement s'est retrouvé isolé dans le pays, isolé sur le plan international, coupé de la coopération, et les conséquences dramatiques ont été subies par les Congolais. Les conséquences, ce fut la guerre, ce furent des millions de morts, d'une tragédie dont le pays a mis des années, en partie grâce à Joseph Kabila, d'ailleurs des années, à se remettre, à se réunifier, à se remettre debout. Et maintenant, on revit quelque chose qui ressemble à cela, avec l'Église qui prend la tête de la contestation et la masse immense de chrétiens qui se mobilisent et que le régime ne peut pas acheter, ne peut pas contrôler. On peut contrôler éventuellement quelques partis politiques, mais on ne peut pas contrôler la masse des fidèles croyants qui sont quand même 80% de la population.
Merci beaucoup, Colette Brackman. Nous vous gardons en ligne, hein, le temps pour nous d'écouter également les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau dit débat. Et puis, on reviendra à vous pour échange de manière encore citoyenne. Amos est à Bukavu, Alain à Mbandaka. 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Amos, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Amos.
Bonjour, J.R. Bonjour à tout le monde qui entend de suivre la radio de la paix.
Alors, Amos, en observant... Amos, comment vous commentez cette actualité? Est-ce que vous pensez, comme les autres, que ce qui retarde aujourd'hui l'option à lever pour l'avenir du Congo, pour l'aboutissement du processus électoral, c'est le fait que cela ne soit pas encore effectif au niveau de la communauté internationale, c'est ce qui bloque encore la situation? Est-ce que vous responsabilisez les uns et les autres, le pouvoir ou la communauté internationale?
Au fait, je pense qu'il faut être inconscient pour ne pas donner sa réaction par rapport à la situation très grave actuellement en RDC. Mais ça, ça de toutes ces réactions-là de la communauté internationale et autres. Moi, je pense que la communauté internationale est en train de jouer un jeu de ping-pong. Je veux dire que on a déjà vécu en Afrique beaucoup de pays européens, même américains, prendre position dans certains pays africains et on n'a pas tenu compte de ce qu'on a toujours parlé de la souveraineté d'un État. Mais est-ce que je peux dire que ces pays prennent position quand il s'agit de leurs intérêts?
Oui, Amos.
Parce que nous avons vu la situation en Côte d'Ivoire.
Oui, Amos.
Nous avons vu la situation, oui.
Donc voilà, heureusement, parce que c'était ça la question de relance. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, vous voulez aussi faire allusion à la Libye?
Oui, à la Libye, justement, c'est par rapport à leurs intérêts. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, la communauté internationale a la capacité d'imposer la paix, d'imposer l'alternance en RDC. En 2006, la communauté internationale a financé les élections dans toute son entièreté. Aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de donner comme à Libye le financement des élections, la paix. Mais qu'est-ce qui manque à la communauté internationale? Qu'il y a plus de 20 000 casques blés, d'imposer la paix partout en RDC. C'est fort possible, mais quand nous analysons la situation, nous constatons avec beaucoup de regrets que la communauté internationale joue le jeu de ping-pong en tenant compte de ses intérêts, abandonnant le peuple congolais à son triste sort. Aujourd'hui, si le pouvoir en profite, parce qu'il constate que la communauté internationale a encore beaucoup d'intérêts auprès de ce pouvoir, on a vécu Niki Alei. N'est-ce pas que tout le monde attendait que dès qu'elle arrive, elle va imposer que les élections se tiennent conformément à l'accord du 31 de la Saint-Sylvestre? Mais tel n'a pas été le cas. Et certains gens disent que peut-être elle aurait eu quelque chose de ce même pouvoir comme intérêt en faveur de son pays,
voilà,
au détriment du peuple congolais. Moi, je pense que la solution pour la RDC ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient, mais c'est au peuple de se lever comme un seul homme. Nous devons marcher même au prix de nos vies comme
c'est le cas
et parvenir à mettre
voilà,
en déroute.
Toujours dans le cadre de la recherche de la paix, vous l'avez dit, la communauté internationale a la capacité d'imposer la paix. Alors aujourd'hui, on assiste à cette léthargie, du fait qu'une option claire n'a jamais été levée. C'est ce qui cause au fait cette interprétation des uns et des autres, et vous soutenez ce qui est des que chacun tire les draps de son côté, là où il y a des intérêts, et c'est la population qui en pâtit. Merci beaucoup. Alain Bolodjoa, vous êtes en Mbandaka, bonjour et bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs à Kinshasa. Alain Bolodjoa, vous êtes en Mbandaka? Alain Bolodjoa? Voilà, on va prendre Alain d'un moment à l'autre. Je crois que Amos l'a dit. On revient à vous, Colette Brackman. Vous venez de suivre Amos qui, au fait, pense que la solution aujourd'hui du problème congolais, c'est pas la population. Est-ce que vous partagez cet avis?
Mais oui, en tout cas, je crois que notre interlocuteur se trouve en disant la communauté internationale a la capacité d'imposer une solution. Je crois que ça, ce n'est pas vrai. On rêve éveillé. Si elle avait voulu, on aurait déjà réglé, par exemple, le problème des SDLR depuis longtemps. La MONUSCO l'aurait réglé. Or, elle ne l'a pas fait. Donc, on ne veut pas régler ce problème qui reste une épine dans la chair du Congo. On ne veut pas régler ça. On ne veut pas régler la situation à Beni. Et donc c'est aux Congolais eux-mêmes, s'ils le veulent, à régler le problème. Je crois qu'ils se font des illusions sur les capacités de la communauté internationale.
Alors Alain Bolodjoa, vous nous avez rejoint, vous êtes en ligne Alain. Voilà, on prend Tingui. Tingui est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour très chers auditeurs.
Alors, que pensez-vous de ce retard de pouvoir lever une option pour le Congo définitivement?
Oui, je crois qu'on venait, il y a un, celui qui m'a précédé, il a bien parlé de la complicité de la communauté internationale. Vous vous souvenez, Nickel est venu, un voyage diplomatique, il a commencé à atterrir par Goma, puis revenir à Kinshasa. Cela peut expliquer tout. Les États-Unis aujourd'hui collaborent avec notre gouvernement, ils sont en très bonne relation, c'est pourquoi l'Europe est en panne d'imagination, en retard même. Colette Braggman, que vous avez réussi, en 2008, il avait écrit un document. Dans ses livres qu'il avait écrit, il a écrit « Joseph Kabila, incontrôlable ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2008 déjà, il n'est parvenu plus à contrôler Joseph Kabila, président de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, Colette Braggman et ses alliés communautés internationales, ils pensent connaître Joseph Kabila? C'est ça la grande question. Donc, je voulais vous dire par là, l'arrivée de Nickel est ici, un moment, Trump se retrouve en Chine. Qu'est-ce qu'il est parti faire? La Chine a décidé d'ici 2030, il doit mettre fin à la pollution. D'où il doit créer des batteries à longue durée de vie à travers les cobalt qui se trouvent en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle vous avez vu que dans les projets Kamoa à Lualaba, tous les grands gisements de cobalt se trouvent présentement entre les mains des Chinois. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec Trump? 236 milliards que les États-Unis vont gagner pendant 5 ans, et la Chine, s'il va donner 236 milliards aux États-Unis, lui-même la Chine aura combien? Tout ça, ça va se faire où? Dans les sols congolais. Souvenez-vous que les groupes chinois, Xinjiang et autres, que les États-Unis avaient 49%, ils ont cédé aux États-Unis. Ivanhoe, américano-canadien, ils ont cédé aux Chinois. 49%. Pour quelles raisons? C'est parce que les États-Unis trouvent mieux maintenant la guerre du pétrole qu'on a déplacé.
Oui, mais Tsingy Pouloulou, parce que si vous évoquez les cas de la Chine, allons de l'autre côté au Zimbabwe, où Mugabe a été écarté, la Chine a pu négocier quand même le départ de Mugabe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Chine, elle est la toute puissante qui peut imposer quand même son veto?
Non, mais la
sur
Chine est là, mais les États-Unis sont là. Les États-Unis et la Chine se retrouvent. Vous savez, un exemple typique, lorsqu'un papa laisse les enfants avec beaucoup de biens et que ses enfants ne sont pas intelligents, conséquence, ils vont commencer à se battre, à se chamailler.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vont
profiter de leurs biens. Vous comprenez? Ce sont les juristes qui vont profiter de leurs biens, c'est-à-dire les juges, les cours et tribunaux et les avocats. Ils vont profiter de leurs biens. Maintenant, les cas de la République démocratique du Congo, c'est un pays qu'on a laissé entre les mains des ignorants. Qui en profite? Ce sont ces avocats-là. Les États-Unis, la Belgique, la France, la Chine. Ils profitent de ça pendant que nous sommes en train de dormir et profitent de ça. Mais tout
merci
ce que
beaucoup.
Moi je peux demander, c'est quoi?
Oui.
Je pense que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, nous avait promis, par la bouche du président François Hollande, au 14e sommet de la francophonie, François Hollande dit ceci: le peuple qui verra sa démocratie piétinée, sa paix menacée, sa constitution torpillée, trouvera refuge au sein de la francophonie. Voilà, nous volerons à son secours pour partir la France. Dans son livre « Réconcilier la France », écrit par Emmanuel Macron, président français, il a promis de secourir les peuples menacés par des prédateurs qui rendent les démocraties malades. Et dans son dernier livre, par Macron, il a dit que la vérité unique, avec la violence qu'elle implique, n'est pas une voie de sortie.
Merci beaucoup, Tsingy.
Voilà.
Je crois que vous avez dit beaucoup de choses et il y a beaucoup qui attendent aussi sur les standards. On va revenir, on va juste faire un petit résumé. Les États-Unis, aujourd'hui, en bonne relation avec la RDC. Vous avez rappelé ce livre, cet ouvrage écrit par notre invité d'ailleurs aujourd'hui, Colette Braggman, depuis Bruxelles, là où elle intervient, qui a écrit Joseph Kabila, incontournable. Là, nous sommes en 2008. Est-ce qu'aujourd'hui, cette prophétie se confirme? beaucoup s'affirment, on verra. Vous avez cité un acteur important également dans cette affaire, c'est la Chine, qui a des enjeux jusqu'en 2030 autour de cobalt que produit la RDC. Bref, ce sera difficile aujourd'hui qu'on puisse lever définitivement une option sur les Congos parce que ça pèse très lourd. Alors on va voir si Alain Bolodjoa partage également ce point de vue. Alain, vous êtes avec nous. Bonjour Alain. Alain, vous êtes avec nous? Voilà, alors le temps que la ligne s'améliore, on va revenir à vous, Colette Brackman. Vous avez suivi, disons, Tsingy qui parlait tout à l'heure, qui évoquait d'ailleurs votre ouvrage de 2008, Joseph Kabila incontournable.
Je rappelle que la date c'était 2008, et à ce moment-là il y avait eu des élections, il n'était pas encore au bout de son deuxième mandat, c'était une autre situation, c'était il y a 10 ans, et en 2008 on ne pouvait pas imaginer, prévoir qu'il allait en 2018 être encore au pouvoir et encore vouloir s'accrocher comme le chef de au Congo.
Mais aujourd'hui, je crois que quand vous parlez ainsi, est-ce que vous faites allusion à la dernière sortie du président lorsqu'il a fait un point de presse, disons une conférence de presse, où il parle aussi de la communauté internationale, notamment de la MONUSCO qui ne respecte pas, qui a maintes fois violé les SOFA.
Il s'en prend assez facilement devant toutes les cibles, tous ceux qui le critiquent, à la Belgique bien sûr, la communauté internationale, la MONUSCO, et d'une façon assez injuste, parce que quand il dit est-ce que la MONUSCO a jamais désarmé un seul groupe armé, il y a beaucoup de choses à dire et à critiquer à l'égard de la MONUSCO, mais la MONUSCO a tout de même aidé les forces armées congolaises à défaire le M23, c'est tout de même une réalité. La MONUSCO continue à soutenir les FRDC, même s'ils n'ont pas eu d'action décisive, ils ont tout de même fait quelque chose, ils auraient pu faire plus, et je dis, ils auraient pu désarmer les FDLR, mais là, il y a eu un d'intérêts divers, d'intérêts de la communauté internationale à les maintenir, d'intérêts aussi à l'intérieur du Congo à les maintenir, donc c'est une situation très complexe. Mais donc le président a un peu ciblé tous ceux qui le critiquent, mais de toute façon assez unilatéral.
Voilà, alors tout à l'heure, Tsingy évoquait le rôle que joue actuellement la Chine en ce qui concerne la RDC. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus?
Mais oui, la Chine, plus que toute autre superpuissance, la Chine a d'abord des intérêts. Avant d'avoir des choix politiques, elle a des intérêts et elle se mêle moins que d'autres de politique intérieure. Ce n'est pas la Chine qui va héberger des opposants, leur donner un porte-voix au parleur pour qu'ils puissent s'exprimer au départ de Pékin. La Chine n'intervient pas ouvertement, en tout cas dans la politique intérieure des pays. Mais elle a des intérêts économiques énormes qui sont présents dans l'exploitation du cuivre, du coltan, mais aussi des métaux rares, des technologies du futur dont le monde entier va dépendre. Tout le monde va devoir passer par la Chine qui sait où trouver, et notamment au Congo, où trouver tous ces métaux. Et donc la Chine veille à sécuriser ses approvisionnements et ses relations avec le pouvoir en place, à la limite quel qu'il soit. Et je suis certaine que demain, supposons qu'il y ait un autre pouvoir en place à Kinshasa, vous allez retrouver les Chinois qui vont sécuriser leurs bonnes relations avec ce pouvoir-là, que ce soit Kabila ou le PPRD ou d'autres, la Chine sera toujours là.
Voilà, il y a Adrien qui nous a rejoint de Kananga. Adrien est à ligne. Adrien? Voilà, on parle plutôt ingénieur Mangoyo qui est à Kinshasa. Ingénieur Mangoyo?
Oui, bonjour JR.
Oui, vous avez la parole, ingénieur Mangoyo.
Merci JR pour m'avoir accordé la parole. Moi, je pense que on ne cessera de le dire. Nous allons continuer à nous exprimer à travers la radio Capi. Mais je crois que pour ce qui est de la communauté internationale, Niger, moi je me dis que ces gens-là, vous savez, la communauté internationale, on a cité pas mal de pays, et Brackman vient de citer des pays là. Je crois que nos rapports avec et tous ces pays et l'Occident sont basés seulement sur les intérêts. Les intérêts seulement. Donc il n'y a aucun pays qui peut venir dire écoutez, je viens pour l'intérêt général du peuple congolais.
Voilà, mais oui, ingénieur Bangoyo, quand on insiste sur les intérêts, ça veut dire quoi concrètement? Qu'il n'y aura pas élection d'ici au 23 décembre? Et il y aura exactement quoi? Est-ce qu'il n'y aura pas passation civilisée du pouvoir?
Non, mais gère. Mais
parce ça, qu'il y a encore des intérêts qu'il faut gérer.
Mais ça, c'est une préoccupation de tous les Congolais. Moi, je pense que même le chef de l'État lui-même, le président Kabila, je crois qu'il croit aux élections. Mais le problème, c'est quoi, Gère? Le problème, c'est l'entourage. Vous savez, moi, je n'ai rien contre les caciques de Mobutu. Mais vous savez, à l'avènement de Mzé, Mzé, à un moment donné, avait compris qu'il fallait mettre en quarantaine tous les gens qui ont collaboré avec Mobutu. Vous savez, les habitudes acquises, Gère, sont difficiles à effacer. Mmh. Le président Kabila est encore jeune. Moi, j'ai vu à travers le monde des présidents qui sont revenus aux affaires 10 ans, 15 ans après. Si les gens disent qu'aujourd'hui Kabila n'a rien fait pour ce pays, non, ça c'est manqué.
Oui, mais ingénieur Bangoyo, bon nombre redoutent, disons, l'histoire de la Russie se répéter en RDC, par exemple.
Non.
Le fait qu'il y a toujours un flou, il y a toujours un flou qui est entretenu. L'option au niveau de la communauté internationale n'est pas clairement levée. Au niveau du pays, il y a toujours un flou absolu. Mais finalement, quel est l'avenir du Congo après le 23 décembre 2018?
L'avenir du Congo, JR, on ne peut le trouver que chez les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire à partir du chef de l'État, le président Kabila, son entourage. Parce que quand vous regardez l'entourage du président Kabila, excusez-moi de vous le dire, parce que nous sommes quand même des Congolais, nous voyons, est-ce qu'il y a des gens autour du président Kabila qui ont le courage de lui dire: Excellence, Monsieur le Président, la voie que nous sommes en train de suivre est suicidaire, la voie que nous sommes en train de suivre est aussi, disons, n'est pas bien pour votre avenir en tant que jeune.
Mais est-ce que vous pensez que c'est facile, ingénieur Mangoyo?
Est-ce que vous avez le courage de le dire ça?
Est-ce que vous avez l'impression que c'est facile quand on sait qu'on a des appuis, par exemple, de la Chine?
Non, Gère. La Chine n'est ici que pour nos matières premières. C'est une coopération. La Chine doit tirer profit. Que voulez-vous que la Chine fasse? Mais si nous-mêmes, les Congolais, à partir du chef de l'État, son entourage, et même les acteurs politiques, se disent, écoutez, maintenant, se mettra ou jamais. On y va. Les élections, si c'est clairement défini, parce qu'il y a des gens qui redoutent, par exemple, cette fameuse machine
à voter.
Si, moi, je ne suis pas informaticien, mais je sais que dans le domaine de l'informatique, tout est possible. La tricherie est possible. Mmh. Mais si on peut seulement, aujourd'hui, là, convaincre les gens, dire, écoutez, cette machine à voter, ce n'est pas pour tricher. Et si les gens qui entourent le chef de l'État, parce que moi je sais que le chef de l'État ne va pas se représenter. Vous savez, Gère,
oui, il ne va pas se représenter. Oui, c'est la Constitution.
Mais est-ce que les gens qui l'entourent, est-ce qu'ils ont la même ça de cette oreille-là?
Voilà, merci beaucoup, ingénieur Bangoyo. Alors, on va revenir à vous, à Colette Bergman, mais le temps peut-être d'accorder la parole à Adrien. Je crois que la ligne là s'est améliorée. Adrien, vous êtes avec nous?
Oui, je suis à Lille, Gère.
Oui, allez-y, vous avez la parole.
Oui, merci, je salue Madame Colette. Gère, il faut dire que les problèmes de la RDC, comme mon ami de Bukavu l'a dit, il y a une certaine complicité, mais là, il faut voir premièrement d'abord la Belgique, parce que lorsque vous voyez ce que la France a toujours fait vis-à-vis de ses anciennes colonies, ce n'est pas la politique que la Belgique a toujours menée vis-à-vis de la RDC. Donc la Belgique a une politique néfaste. Lorsqu'elle hausse les taux, il y a donc la RDC qui essaie de répliquer, la Belgique est obligée de faire marche arrière. Là, c'est de 1. De 2, vous allez vous rendre compte que lorsque la RDC s'appuie vers la Chine, parce qu'il y a ce qu'on appelle le fameux droit de veto, donc la communauté internationale, tout ce qu'elle est en train de faire, elle sait que lorsqu'ils sont dans leur conseil de sécurité, il suffit que la Chine donc mette son droit de veto en application et tout doit se bloquer. C'est comme ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que l'ingénieur Mangoyo venait de dire. La solution ne viendra ni de la Chine, ni de la France, ni de la communauté internationale, Donc la solution viendra du peuple congolais. C'est comme ça que nous, nous sommes en train d'encourager...
Oui, mais le peuple manifeste, il est réprimé, le peuple n'a pas d'armes pour chasser, bon, au fait, pour résoudre le problème du Congo. Vous ne voyez pas que ce sera pratiquement un cycle infernal?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment difficile, mais c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que la Belgique devait maintenant jouer son rôle, parce que lorsque je prends l'histoire du Burkina Faso, la France avait fermé les yeux la première fois, mais la deuxième, troisième fois, la France s'est montée au créneau. C'est là que la Belgique doit jouer son jeu franc vis-à-vis de la population congolaise pour voir comment c'est. Il faut vraiment sécuriser cette population parce que c'est quand même inacceptable pour une opinion contraire au pouvoir. On abat les gens.
On a des petits soucis avec votre ligne. On vous entend difficilement, Adrien. Merci. Claude, vous êtes à Likassi. Bonjour.
Bonjour, JR. Je commence par saluer Mme Brachmann, avec qui j'ai eu la chance de parler le jour qu'elle était venue à Lubumbashi pour la projection du film L'homme qui répare les femmes. Je la souhaite, je lui souhaite plutôt une bonne année. En fait, moi je me dis que la communauté internationale, en tout cas, c'est celle qui forme des dictateurs dans notre pays. C'est celle qui joue un très mauvais jeu et c'est celle vraiment qui est à la tête d'un complot dont nous, nous ne savons plus comment nous en sortir. Tenez, si vous regardez l'histoire de notre pays, les dirigeants, il faut dire les présidents, les gens qui ont géré notre pays, la plupart sont venus de la part de la communauté internationale, nous citons les États-Unis et l'Union européenne. Mobutu, qui a fait un coup d'État à Kasavubu, à l'époque, et à Lumumba, vous savez comment il a été
accédé
à la tête de notre pays. Mmh. Et les relations étaient très bonnes avec la France, la Belgique à cette époque-là, parce qu'ils devaient leur servir. Nous avons terminé avec Mobutu, et la même communauté internationale a fabriqué les opposants tels que les feux tiennent, et Mobutu est parti. La même communauté internationale est venue avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, en tant que nationaliste, il a compris que finalement c'était une bande de gens et une histoire de conglomérats qui venaient juste piller notre pays et nous dicter des choses. Il avait à essayer de commencer déjà à se retirer, mais malheureusement pour lui c'était très tôt et vous savez la suite. Mais non, c'est le président Joseph qui est venu, n'est-ce pas, par héritage. Et en 2006, il fallait qu'il ait un pouvoir légalement, tout ça de cette manière-là. La communauté internationale, vous avez vu comment elle s'était déployée avec des hélicoptères, des gros financements, tout ça, les élections ont été organisées à date prévue, et hop, le président est devenu quand même légitime. Et la communauté internationale a été servie jusqu'à la fin, à tel point qu'elle veut toujours continuer à être servie. Et nous avons eu le deuxième mandat du président, la communauté internationale voulait déjà se retirer. Et hop, le président voulait à tout prix avoir le deuxième mandat, et on a eu les élections chaotiques de 2011, mais il est quand même resté au pouvoir. Mais là, il est fait mandat. Donc, il faut voir la position de la communauté internationale, parce qu'ils ont des intérêts. La France, par exemple, est-ce que vous entendez sa position? Parce qu'elle cherche à venir aussi piller.
Oui, mais l'Union européenne a pris...
position, c'est mitigé.
Oui, mais Claude, l'Union européenne a pris quand même quelques sanctions à l'endroit de certaines autorités du pays, aussi quelques résolutions, comme aussi au niveau du Conseil de sécurité.
Vous savez, les sanctions que l'Union européenne a prises là, bon, la finalité c'est quoi? Ces sanctions-là, ça aboutit à quoi? Et ce sont des sanctions que vous infligez à quelqu'un qui vous sert tout le temps. Les jours où il vous sert un peu, vous essayez de brandir les sanctions pour qu'il soit toujours obéissant. Mais vous sentez déjà que, dans la sortie dernièrement ici du président dans le point de presse, vous sentez que le président veut maintenant se dédouaner et essayer de regarder sous une autre direction parce qu'il constate que trop c'est trop, ou vous me demandez trop, en même temps vous me sanctionnez de l'autre côté, j'essaie de vous mettre à nu. Et quand il essaie de le mettre à nu, vous comprenez quelque part que, et même les Nations Unies, la MONUSCO, mais on commence à se poser des questions, est-ce que c'est nécessaire? Alors bref,
nous sommes victimes d'une vaste, d'un vaste complot international. C'est la communauté internationale qui nous fabrique des dictateurs, et dès qu'ils constatent qu'ils sont déjà servis, ils veulent changer un autre dictateur.
Merci beaucoup.
Ils nous mettent sous une situation difficile à gérer.
Merci.
Et bref, on se retrouve un peu.
Merci beaucoup. Compliqué. Merci beaucoup. Merci
même
beaucoup.
Les dirigeants qui ont
merci beaucoup, Claude. Voilà, on va accorder les autres aussi qui nous ont rejoints dans cette émission. Il est temps de retrouver Colette Breckmann qui est avec nous depuis Bruxelles. 09 97 06 63 30. Ou encore le 09 97 06 49 93.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ses citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Nous avons en ligne Colette Breckmann, journaliste, analyste politique, spécialiste des questions de Grand Lac. Madame Colette, vous êtes encore avec nous en ligne?
Oui, je suis là.
Alors, vous venez de suivre la réaction des uns des autres. Quel est d'abord votre commentaire par rapport à ce qui est dit? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est vrai, la population congolaise se trouve face à un complot international?
Je crois que c'est trop dur. Je crois qu'en général, l'opinion congolaise accorde trop d'importance à la communauté internationale. Elle a des intérêts. Elle a beaucoup plus d'intérêts que des politiques. Mais dire, comme l'a dit l'intervenant précédent, que c'est la communauté internationale qui a mis au pouvoir Laurent Désiré Kabila, ça c'est tout à fait faux. À la limite, c'est même une erreur de casting où la communauté internationale s'est dit, mais c'est pas cet homme-là qu'on voulait, et elle a une certaine responsabilité dans son élimination. Donc lui, il était un vrai nationaliste qui est arrivé presque impromptu, et on a vu le prix qu'il a payé. Après, Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a fait les yeux doux à la communauté internationale qui a pensé qu'il allait servir ses intérêts. Et je pense que l'Occident a été surpris, déçu, fâché, lorsque Joseph Kabila s'est tourné vers la Chine en se disant, je dois diversifier les interlocuteurs, les richesses du Congo peuvent être exploitées par les Chinois qui vont faire tout de suite des travaux d'infrastructure qui vont bénéficier à la population et pas des investissements après des années d'études par les bureaux d'études, etc., où l'Europe était, les Occidentaux étaient beaucoup trop lents. Et donc là aussi, il a été confronté à cette opposition de l'Occident. Mais malgré tout, la communauté internationale défend ses intérêts, mais c'est tout de même les Congolais qui font leur politique. Et je continue à penser que si l'opposition congolaise avait été plus unie, plus déterminée et tout ça, les choses auraient été différentes. Déjà, après la conférence nationale à la fin de l'ère Mobutu, et que les choses pourraient être différentes encore aujourd'hui, et que cette mobilisation citoyenne, je dis citoyenne parce que c'est la mobilisation des catholiques, des croyants, mais beaucoup plus largement, c'est la mobilisation des citoyens congolais, ça pourrait faire changer des choses et peut-être faire émerger d'autres leaderships.
Alors, parce que d'aucuns disent que la mobilisation citoyenne vers les années 90 n'avait pas donné les résultats escomptés. Il fallait attendre plus de 5 ou 6 ans pour que Mobutu parte. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que effectivement, comme l'histoire se répète, mais dans des circonstances un peu différentes, que aujourd'hui ce mouvement peut donner quand même un résultat? Parce que si tout le monde s'en tient, maintenant la population qui doit se prendre en charge.
Oui, je crois que ça peut donner des résultats, parce que les Congolais ont appris douloureusement avec combien de millions de morts qu'au fond ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et lorsque vous entendez les slogans, Téléma et coquilles, tout ça, on se prend en charge, partout les gens disent ça, mais ça peut aller jusqu'à des choses très concrètes. Si les élections ont lieu en décembre, moi je pense qu'elles auront lieu, les citoyens peuvent intervenir pour les contrôler, pour vérifier qu'on ne triche pas, pour dénoncer les fraudes éventuelles. Les citoyens peuvent faire beaucoup, et pour l'instant, on sent cette vague de fond qui est en train de se lever et qui est tout de même un élément neuf dans l'histoire du Congo. Et là, je dis, il faut arrêter de penser que c'est la communauté internationale qui va sauver le Congo. Ça, c'est une vaste blague. Elle n'a que des intérêts et elle ne sauvegardera que ses intérêts.
Alors, il y a professeur Ange-François qui nous a rejoint à ces débats. Il est historien. Il suit également de près l'actualité en RDC. Alors, avec lui, peut-être évoquer le parallélisme entre la situation des années 90 et aussi la situation actuelle. Est-ce qu'il y a comparaison? Professeur Ange-François, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Professeur Ange-François?
Oui, effectivement, je suis en ligne.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un parallélisme entre la situation des années 80 à RDC, avant le départ de président Mobutu, et la situation aujourd'hui où la communauté internationale s'en mêle?
Mais nullement, vous savez, c'est quand même très embêtant, parce que quand on regarde les choses, l'Europe passe le temps à nous dicter des conduites à suivre, et des conduites qui, dans notre réalité, nous mettent dans des difficultés terribles. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Libye. L'on a tué Kadhafi, qui était le seul à pouvoir maintenir de l'ordre. Et maintenant, les ordres s'est installé. Au Congo, le Leopoldville, comme on disait autrefois, donc à Kinshasa, le maréchal Mobutu était là, l'Europe, toujours dans ses problèmes bizarres, à essayer de nous inculquer des choses qui n'existent pas chez nous. On a tout fait, ben, le général Mobutu est parti, et ben, le désordre s'est installé. Là, savez, votre pays est tellement grand, je me disais, des étudiants d'autre jour, mais pour traverser le Congo, c'est entre 2 et 3 épisodes horaires, et des choses de ce genre-là, et mettre 4 heures, c'est, je disais, c'est parti du Gabon pour pouvoir arriver au Sénégal. Et les ont mis à crier. J'ai dit, oui, c'est un très, très grand pays, mais on ne réalise pas. Et votre pays, il faudrait quelqu'un de poil. Je vais dire une bêtise pour les Occidentaux, mais il faut une dictature. Il faut une dictature pour pouvoir maintenir les choses. Mmh. Or, actuellement, votre président, là, que j'aime bien, bel homme et tout ça, il n'a pas la poigne. C'est pas possible. Et peut-être qu'il aurait été même mieux que l'on divisa le pays, hein. Vous êtes tellement grand et totalement divers, oui. Éminemment.
Oui, professeur, professeur François.
De pouvoir commander.
Oui, professeur.
Alors,
François.
Aujourd'hui, quand on regarde la situation, elle est totalement mauvaise. D'abord, pour pouvoir mettre un calme, il faudrait que les élections se tiennent. Il faudrait que le président quitte sa table de commandement, parce que c'est cela. Ce qui est plus embêtant en Afrique chez nous, c'est que. On estime qu'on est chef de village, quoi. On reste là, à vitam éternel, on s'en va pas. Or, la démocratie que nous avons héritée des Européens ne donne pas cette façon de faire. Mmh. Et voilà le désordre qui s'installe et qui continue à s'installer. Tant que le cabinet ne partira pas, vous aurez toujours des problèmes chez vous.
Alors, professeur, merci. Allô? Merci, professeur, d'avoir accepté d'intervenir pour faire aussi ces parallélismes entre les années 90 et aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous partagez aussi l'avis selon lequel que le fait qu'une option claire n'a pas été encore levée au niveau de la communauté internationale, on est parti pour longtemps dans cette situation en RDC.
Ah, il faudrait bien que la communauté internationale, puisque elle passe le temps à dicter les ordres aux Africains, ben, ils n'ont qu'à dicter les ordres et faire des choses très bien. Il faudrait que clairement, ils puissent dire que bon, mais il faudrait que d'ici décembre, que Kabila ait pris bagage, qu'il parte et qu'il y ait vraiment des élections en RDC. Et je crois qu'après les élections, il y aura sûrement un calme. Et vous avez eu tellement de problèmes que je crois qu'après ça, vous n'allez pas continuer à refaire des problèmes. Donc, il est nécessaire que les gens s'asseyent et qu'ils puissent trouver une solution durable et définitive pour mettre un terme. Écoutez, quand j'écoute la radio tous les matins France Inter, là, ou RFI, comme on appelle maintenant, c'est toujours le Congo. Le Congo et ses morts. Le Congo. Mais Seigneur, c'est quand même terrible. Ce n'est pas bon, quoi. Vous voyez, c'est pas toutes ces choses-là aussi qui gratte l'Afrique. Alors, cette dégradation de l'Afrique vient aussi des Européens, de façon de faire, et ainsi de suite, qui sont à l'origine de nos problèmes. Mais maintenant, ne jetons pas la pierre toujours aux autres, mais il faudra aussi que nous-mêmes,
nous prenions en charge.
Nous essayons d'être sérieux. Parce que là, il y aura des élections. Après les élections, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à tirer à lui et à dire, il faudrait que les gens grandissent en mieux. Il faudrait donner des cours, n'est-ce pas, pour que les gens comprennent ce que c'est qu'un État, ce que c'est que le peuple, et que ceux qui viennent au pouvoir commencent à aider le peuple. Vous êtes tellement nombreux, vous avez faim qu'il faudrait que ceux qui ont le pouvoir s'occupent de leur peuple. Et que c'est honteux de faire toujours appel à l'Europe, mon Dieu, ils ont ce leur problème.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Ange-François, d'avoir accepté d'intervenir depuis Gabon. Nous rappelons que vous êtes historien et vous suivez de près la situation en RDC. Alors, on revient à vous, Colette Breckman. Vous avez suivi le professeur. Votre réaction, Colette?
Oui, je crois que lui aussi parle de la communauté internationale, mais je crois qu'en gros, si les Congolais veulent une alternance, veulent aller aux élections, il ne faut pas non plus sanctifier, sacraliser les élections. Ce n'est pas par constitutionnalisme, par une espèce de juridisme excessif, c'est parce que les gens veulent vivre mieux, ils veulent une meilleure répartition des richesses. Et si l'équipe actuelle est satisfaisante, que les gens trouvent que la répartition est bonne, on va la reconduire, peut-être plus avec le même homme, avec un dauphin, mais si les gens sont frustrés, déçus, si la jeunesse voit que ses attentes n'ont pas reçu de réponse, on va vouloir changer d'équipe. Ça s'appelle l'alternance, et c'est un droit. Ce n'est pas par juridisme, c'est simplement parce que les gens veulent toujours que le changement se traduise par un mieux. C'est ça le fond du problème, et que pour l'instant, le président Kabila, je pense, avait bien commencé, il avait remis le pays debout, il avait réunifié, et puis maintenant, on assiste à une très mauvaise répartition des richesses, et les gens veulent, ou bien on corrige l'équipe en place, mais beaucoup n'y croient pas, ou bien on met une autre équipe, on choisit l'alternance.
Merci. Alors, on va réécouter encore deux autres auditeurs avant de conclure avec vous. Colette Breckman, nous rappelons que vous êtes journaliste, analyste politique, spécialiste des questions de Grand Lac. Arsène, vous nous avez rejoint également à ce niveau du débat. Merci d'être venu dans Parole aux auditeurs. Vous êtes à Kikwit, Arsène. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Ok, merci beaucoup pour la parole, monsieur JR. Moi, je prendrai ça à trois volets. Je vais prendre d'abord la communauté internationale, puis le gouvernement, puis le peuple congolais. En ce qui concerne la communauté internationale, vous devez comprendre une chose, que le Congo, il y a deux Congos. Il y a le Congo de Léopold II et il y a le Congo de Lumumba. Le Congo de Léopold II n'est jamais parti. Pourquoi? Parce que quand Lumumba a ouvert son Congo, il s'est fait des problèmes et il a été abattu. Donc, ça veut dire que le Congo de Léopold II est revenu avec un mercenariat qu'on peut facilement décelé. Qu'est-ce qui se passe? Après la mort de Lumumba, nous avons vu qu'il y avait l'installation des mercenaires. C'est comme ça que je les appelle. Nos frères congolais ont travaillé au détriment du peuple congolais pour les intérêts des Occidentaux en particulier. Aujourd'hui, ces mêmes Occidentaux, quand ils prennent des positions, ils ne prennent pas des positions pour le peuple congolais, ils prennent des positions pour leurs mercenaires qu'ils ont mis en place pour essayer de trouver leurs intérêts matériels et financiers au Congo. Nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, quand la communauté internationale est en train de parler, ils parlent à Kabila, c'est leur mercenaire, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, aujourd'hui ils doivent taper sur le doigt. Mais quand il faut voir le gouvernement de son côté, mais c'est un gouvernement malhonnête, vraiment malhonnête, c'est comme ça que je peux le qualifier.
Oui, Arsène, peut-être apaiser un peu de mots. Malhonnête, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui caractérise cette malhonnêteté? Parce que c'est un gouvernement composé des responsables.
Ok, merci beaucoup, JR, pour cette petite reproche. Mais j'insiste sur le mot. Pourquoi? Parce que on nous a promis les élections. Depuis quand? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Tout ce qu'on dit, c'est du mensonge. La réalité est là. Le président venait de parler, il n'a pas de moyens pour organiser des élections, mais il a la foi d'organiser des élections. Donc ça veut dire au mois de décembre, nous n'aurons pas des élections. Mais comment est-ce que je peux traiter ça? C'est de l'honnêteté ou la malhonnêteté? Passons un peu. Laissons un peu le gouvernement à côté, parce que là, il y a trop à dire.
Et le peuple.
Je vais parler au peuple congolais. Le peuple congolais doit se prendre en charge. J'encourage le CLC du travail qu'ils sont en train d'abattre. Dans l'histoire, les chrétiens n'ont jamais été vaincus. Aujourd'hui, les chrétiens se sont levés On ne peut plus reculer, nous devons aller en avance. Je félicite le Monseigneur Monsengo, le cardinal Monsengo plutôt, et qu'il encourage spirituellement et moralement les Congolais. Nous devons nous battre pour notre propre liberté, pour notre propre démocratie. On n'a pas à attendre les Européens ou les Asiatiques ou je ne sais qui pour nous donner notre paix.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Arsène d'avoir appelé. Vous avez au fait établi des responsabilités. Et c'est vrai, il y a une part de responsabilité de la communauté internationale, celle du gouvernement et aussi la population qui doit au fait, de manière citoyenne, se mettre au fait en premier plan pour au fait retrouver la paix en RDC. Félicien, vous êtes avec nous, en tout cas vous avez droit à une minute. Félicien, bonjour, la pluie à 7 ans. Bonjour Félicien.
Bonjour Gérard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat, parce qu'on l'a pris à 7 ans.
En une minute, je n'ai pas grand chose à dire, mais je dois vous dire que nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Le sort du Congo a été déjà réglé à la conférence de Berlin. Et au fur et à mesure, ce que vous appelez la communauté internationale est en train d'exécuter son plan. Dernièrement, Sarkozy nous a dit qu'il y a trop de richesses au Congo, ça peut pas être pour nous-mêmes. Et il y a beaucoup d'espace, et on peut aussi donner aux autres. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'utiliser le Rwanda et l'Ouganda pour envahir le Congo.
Voilà, on aurait bien voulu aller plus loin avec vous, Félicien. Malheureusement, on est obligé de vous arrêter là. Donc, ce n'est qu'une partie remise, peut-être demain, dans un autre débat. Alors, nous accueillons dans ces studios Nico Kalambay, qui nous annonce déjà les sujets de demain et prenez en connaissance.
Bonjour J.R.
Bonjour Nico Kalambay.
Bonjour à tous les
auditeurs. Bonne arrivée dans ce studio.
Merci. Demain on sera au rendez-vous à 11h de Kinshasa comme chaque mardi et selon plusieurs sources parlementaires, J.R., les députés et sénateurs de la RDC auraient touché depuis l'année dernière leurs indemnités de sortie. Un député proche de l'opposition affirme même que le montant réel de leur indemnité de sortie a avoisiné les 37 000 dollars par personne. Ajouté à cette affaire, la convocation d'une session extraordinaire qui s'est clôturée la semaine dernière. Selon certains députés et sénateurs, sans une plénière. Donc, que vous inspire cette actualité? Le débat sera lancé demain à 11h de Kinshasa, mais avant. Donc, une heure avant, les auditeurs peuvent nous appeler au 081-890-4969. Ils peuvent également nous laisser un message sur cette adresse pa@radiocapi.net.
Merci Nico et à très bientôt. Merci. Voilà, on revient à vous, Colette Breckman, pour la conclusion. Vous êtes encore optimiste qu'il y aura effectivement des élections, on va aboutir à la fin du processus électoral d'ici cette année, d'ici la fin de cette année.
Oui, je crois qu'il y aura des élections, mais je crois aussi que le peuple congolais peut encore surprendre. Et je voudrais vraiment revenir longtemps en arrière, les Congolais devraient mieux se rappeler leur histoire. En 59, les Belges n'ont rien vu venir. Ils pensaient que le Congo était calme, que rien ne se passerait. Et tout d'un coup, à la surprise générale, à la surprise des Belges en premier, Lumumba a été élu sur base d'un programme nationaliste, d'un programme d'indépendance où les Congolais devaient se remettre debout. Eh bien, aujourd'hui, des années plus tard, c'est ça le message du CNC, de cette mobilisation des chrétiens, des citoyens congolais, et pendant des mois, on n'a rien vu venir. Et tout d'un coup, les gens sont là, ils sont dans la rue. Et donc, il y a là une vague de fond qui pourra porter le Congo aux élections, mais croire qu'aux élections, on va tricher, on va manipuler, que les résultats seront déjà joués, c'est peut-être là aussi faire preuve d'aveuglement. On n'a pas vu la victoire de Lumumba, et on ne verra, on devrait essayer de comprendre qu'on pourrait être surpris lors des élections qui vont avoir lieu, je le pense, et si elles n'ont pas lieu, on sera encore plus surpris des réactions de la population. Il faut faire confiance au peuple congolais, et on n'a pas fait pendant trop longtemps, en croyant que ça se déciderait dans les chancelleries à l'étranger. C'est au Congo que l'avenir va se dessiner.
Merci beaucoup Colette Breckman, journaliste, analyste politique et spécialiste des questions de Grand Lac. Vous étiez notre invité dans Parole aux auditeurs. À très bientôt. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Willem Lungamba, Pierre Lamegi, Nico Kalambay. Ce programme qui vous a été coordonné, présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À très bientôt pour un autre numéro.